je, holku, co se slíká. A tak se jednou stalo, když mě s tým už svlékl.
Mais alors Annette, nous sommes en quelle année? Puisque tu dis les événements doivent être assez clairs dans nos têtes. Ils sont rentrés en Tchécoslovaquie en quelle année après la guerre?
En 1948, donc Oscar a été rappelé par les membres du parti. Il se rappelait de lui et il avait toujours gardé des contacts avec des gens restés en Tchécoslovaquie qui avaient été moins menacés que lui puisqu'il n'était pas d'origine juive pendant la guerre. Il rentre en 1948 et effectivement, très rapidement, la famille n'est pas aussi heureuse qu'elle le pensait en rentrant. La situation ne va pas en progressant. En Tchécoslovaquie, dans les années 50, la situation économique était faible et il y avait donc tous ces problèmes de relations entre les dirigeants communistes. Dans ce sens-là, Oscar donc, a été dénoncé, donc, comme je l'ai dit, assez rapidement, en 1951, à l'époque du procès Slansky. Et à ce moment-là, Jolanger se retrouve seul avec deux petites filles, donc, sans aucun moyen pour gagner sa vie. Et là, un seul avantage, si on veut, sur d'autres gens qui ont peut-être vécu la même chose, c'est qu'elle a des amis en Amérique, puisqu'elle a vécu 10 ans là-bas, et qu'elle aura toujours des contacts, soit de... pas forcément des visites, puisqu'il y avait vraiment à cette époque un rideau de fer quasi infranchissable, mais il y avait des lettres, il y avait des mandats, il y avait de temps en temps des paquets. Et elle raconte de temps en temps qu'effectivement, grâce à ces manifestations d'amis de l'autre côté du rideau de fer, elle a pu quand même trouver le courage de tenir le coup. Parce que les années donc, de 1950 à 1960, c'est la saison à Bratislava, c'est donc une saison qui dure bien plus que 3 mois, où elle doit se débrouiller avec quasiment rien du tout pour subsister avec ses deux petites filles. Alors, peu à peu, elle peut... Au début, c'est le pire. Elle est... On la sort de son appartement, elle est obligée d'habiter un véritable taudis, elle ne gagne quasiment rien du tout, elle doit travailler en usine, elle doit faire un chemin tous les matins, elle doit se lever aux aurores, faire 1 heure à pied, prendre un vieux bus, aller travailler dans sa fabrique, rentrer le soir. Bref, c'est vraiment des conditions de vie qui sont absolument épouvantables. Et effectivement, on se rend compte à quel point cette femme arrive à trouver l'énergie de résister à cela. Et c'est en ce sens-là que je disais au début du livre que je trouve qu'on doit vraiment rendre un très grand hommage au courage de cette femme parce qu'elle réussit à garder même de l'humour, de la gaieté, à ne pas se laisser aller dans une situation qui rebuterait pas mal de gens.
Effectivement. Mais alors, est-ce que finalement, elle va petit à petit reprendre en activité sa prise de conscience, elle va redécouvrir vraiment ce qui se passe dans son pays et se mettre à lutter contre, puisque finalement, décrire sera un geste public significatif.
Oui, oui.
Et comment cela va-t-il prendre corps dans sa tête par rapport à sa vie?
Elle se refuse tout au long du livre à faire une analyse politique. C'est pas du tout ça qui compte pour elle. Elle veut rendre la vie quotidienne. Elle le dit plusieurs fois. Et effectivement, elle critique ce qui se passe à la fin du livre. Elle parle un petit peu donc du printemps 68 et elle dit « Moi, je me méfiais depuis le départ. J'avais trop vu de volte-face de la part des dirigeants pour y croire. C'était toujours les mêmes qui étaient au pouvoir. » Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand je lis ce livre, je me dis « Est-ce que c'est peut-être pas exactement ce qui se passe actuellement à Moscou ou à Leningrad ?» Allez savoir, je ne suis pas une spécialiste en aucun cas, mais effectivement, elle a vécu toute sa vie là-bas. Elle connaît bien les gens et elle dit « c'est toujours les mêmes qui sont là-bas, c'est très difficile de changer le pays, de reconstruire. » Ce n'est pas un constat positif ni amusant, hein. Je j'en suis bien convaincue, j'espère bien qu'on pourra trouver des nouveaux chemins.
Peut-être que l'histoire actuelle de la Tchécoslovaquie donnera une autre...
Alors oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis que son analyse se termine en 1968, voilà. Quand elle quitte définitivement la Tchécoslovaquie, qu'elle va donc s'installer en Suède, mais elle n'a pas vécu les changements actuels.
Ni les débuts des regroupements des dissidents en Tchécoslovaquie.
Non. Non, ça, elle n'a pas vécu. Mais on la sent quand même à la fin du livre extrêmement méfiante. Hein, c'est cette fameuse méfiance face à tout. Alors, ce qui compte pour elle, c'est la relation personnelle avec ses amis, c'est la musique, c'est pouvoir s'amuser, c'est le spectacle, c'est l'art. C'est ça qui lui reste, en fait. D'ailleurs, ces deux filles vont faire carrière dans la musique. Donc, elles sont parties dans une direction qui n'est pas du tout des études techniques ou quelque chose dans la sociologie ou la gestion, comme le faisait son mari.
Je trouve intéressant, ce que je trouve très intéressant de ce que tu nous racontes, Annette, à propos de la saison à Bratislava, ce livre de Julinger, c'est l'idée que des gens ont vraiment eu un rêve dans la tête à un moment donné. Le communisme a représenté pour eux vraiment l'idée que quelque chose pouvait changer fondamentalement. Et aujourd'hui, quand on met si facilement le communisme à la poubelle, après une déformation de toute évidence, tel qu'il était pratiqué dans les pays de l'Est et de l'Union soviétique, on se dit, mais les gens qui ont vraiment rêvé à ça et qui en plus ont dû se battre, ont subi un quotidien, des choses comme ça, mais qu'est-ce que ça doit signifier aujourd'hui de voir tout simplement leur rêve jeté à la poubelle? Déjà qu'ils l'ont vu se casser en mille morceaux au fur et à mesure des difficultés qu'ils ont eux rencontrées. Je pense que si elle vivait ce qui se passe aujourd'hui, bon, peut-être ça, on ne sait pas, peut-être comme tu le dis, elle est peut-être encore là pour le voir, espérons. Hein. Mais pourquoi tu disais c'est une vieille dame, 1912-1900, qu'est-ce qu'on a dit, 80? Oui, elle avait déjà 90 ans. Oui, il y a des choses que peut-être elle n'a pas vu ces événements.
Aujourd'hui, si elle vit encore, elle a 80 ans. Mmh. Donc on peut dire que c'est une vieille dame.
Ouais, 80. Moi, je crois que c'est assez émouvant, effectivement, de voir ces étapes de gens qui ne sont pas forcément au premier rang de toutes les batailles, mais qui vivent le quotidien avec quand même un grand espoir et une bonne énergie pour essayer que les
choses
changent.
Tout à fait. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle le fait avec, j'ai envie de dire, avec tout son cœur. Elle le fait sans a priori, elle le fait sans théorie, elle le fait d'une manière extrêmement simple. Et on ne peut que la suivre avec beaucoup de plaisir dans les différentes étapes de sa vie. Donc, pour en revenir un tout petit peu à la fin, après je laisserai la parole à Evelyne, il est sûr que peu à peu, on voit qu'après la condamnation de son mari, donc il y a pendant une année ou deux, une situation des plus amères pour elle. Et après, elle arrive peu à peu, on oublie, les gens oublient peu à peu, aussi bien les voisins que le secrétariat communiste. Et dans ce sens-là, on la laisse, par exemple, changer de travail. Elle peut reprendre son travail de traductrice, de sténographe. Donc, c'est un travail qui est déjà beaucoup plus intéressant pour elle. Elle rencontre des autres personnes. Elle arrive à se lier, justement, avec les comédiens de l'opéra de Bratislava, des chanteurs. Et ça lui donne des contacts tout à fait intéressants pour elle qu'elle n'avait pas à l'époque de son mari. Et dans ce sens-là, on sent que peu à peu, elle arrive de nouveau à organiser sa vie d'une façon meilleure, d'une façon positive. Et ça, c'est effectivement un message quand même, disons, d'espoir. J'aimerais pas donner l'impression que ce livre est uniquement une condamnation de ce qui s'est passé dans ces années-là. C'est une condamnation de certaines attitudes, mais jamais des gens, jamais du peuple, jamais du pays. Et ça, j'ai trouvé que c'était important que ça soit dit de cette façon-là, avec vraiment toujours... elle écrit la vérité authentique. On ne peut pas croire qu'un seul mot de ce livre ne soit pas vraiment vécu.
Na to se hodí jedna věc.
Bien avant d'avoir entendu parler des expériences sociologiques tentées par les jeunes marginaux d'Occident, Nous avions fait de notre appartement un lieu assez semblable à ce dont il rêve. À cette différence près que nous nous lavions, que nous mangions de la viande quand nous pouvions en trouver, que nous n'usions pas de drogue, que nous ne pratiquions pas le sacrifice humain pour purifier l'univers, et que l'échangisme ne se passait qu'à table dans notre genre, nous aimions la vie communautaire avec tous les charmes et la cordialité qu'elle comporte. Tout ça, nous le devions aux locataires. On nous les avait imposés et nous craignions le pire. Nous avions tort. Leur arrivée fut une vraie bénédiction. Les étudiantes, une fois mariées, retrouvaient le chemin de notre maison pour se mêler aux amis de Tania et pour que je continue de les materner. De vieux amis réapparurent. La maison ne désemplissait pas. Tous les âges se succédaient. Les plus jeunes étaient mes deux petits-enfants. Quand leurs parents partaient en tournée à l'étranger, parfois pour plusieurs mois, ils les confiaient à une vieille dame qui devait me rendre des comptes, et c'est Tania qui leur servait de mère. Il y avait toujours un lit pliant pour celui ou celle qui ratait son dernier autobus à force de n'avoir pas vu le temps passer. Une de nos jeunes locataires préparait une thèse d'anglais. Je lui donnais un coup de main tandis que son mari m'aidait aux tâches ménagères accessibles à ses talents masculins. Alors j'avais envie de terminer sur cette note positive où on voit donc qu'elle ouvre l'appartement qu'elle a obtenu donc après la réhabilitation de son mari qui était plus grand que celui dans lequel elle vivait avant et qu'elle l'ouvre à tout le monde et qu'ils vivent une vie entre eux qui est basée quand même sur une confiance mutuelle avec les gens qu'elle s'est choisis. Dans ce sens-là, il est clair qu'on peut vivre dans ces pays d'une manière aussi positive et riche sur le plan affectif que n'importe où ailleurs. Et je crois que c'est aussi important à redire. Mais c'est grâce à l'énergie de cette femme et à la façon qu'elle avait d'aimer les autres, de choisir ses amis et de ne pas vivre d'après les dogmes qui étaient effectivement trop courants à ce moment-là.
C'est ça qui la fera quitter définitivement la Tchécoslovaquie?
Oui, c'est la peur de retrouver un pays qui est dirigé de nouveau d'une manière autoritaire, autocratique, avec des théories et non pas le respect de la personne.
croyais pas qu'on soit revenu dans les années 70, même si, eh bien oui, c'est pourtant Hair, mais en tchécoslovaque, vous aurez sûrement reconnu, j'espère. Eh bien, c'est une chanteuse dont j'ai acheté un disque l'année passée à Prague, c'est Marta Kubišová, et qui pourtant, en 1990, enregistrait, vous avez vu, un mixte en tchécoslovaque de Hair. Mais enfin, je pense que vous aurez apprécié un petit peu plus les premières chansons que vous avez entendues d'elle. Quant à le morceau qui l'a juste précédé, eh bien, c'est un morceau d'un groupe rock tchécoslovaque. Vous apprécierez à votre façon ce que vous pensez du rock tchèque. Alors Evelyne, nous restons dans le milieu communiste avec ton histoire. On change tout à fait d'époque, on change de personnage, mais on reste un petit peu quand même dans l'idéologie qui est quelque part semblable, puisque nous nous attaquons ni plus ni moins à Jenny Marx, la femme du diable.
Oui, on va à la Genèse alors. Carrément, hein? Alors, je voulais juste lire l'exergue du livre de Françoise Giroud.
Elle redonne un grand coup, Françoise Giroud. Elle s'attaque à toutes les grandes dames ou toutes celles qu'on a méprisées, qu'on n'a pas connues, parce qu'elle fait toute une série de portraits ces derniers temps déjà.
Oui, bon, elle avait parlé beaucoup d'elle-même aussi dernièrement. Tu te souviens, les leçons particulières.
Ah, voilà. Mais il y avait Marie Curie, non? Qui c'est qu'elle
a fait? Oui, elle a fait quelques portraits remarquables de femmes qu'elle a aimées. Et là, elle se remit à sa série de portraits avec Jenny Marx. Et moi, bien que, comme on en a parlé tout à l'heure avec Annette, il y avait peut-être un petit chapitre dans le livre de Françoise Xenakis. Comment il s'appelait là, celui qui dit mais qu'est-ce qu'on a fait de la femme de Freud ou,
ah voilà, oui, là, voilà, oui, oui.
Mais où est passée la femme de Freud, voilà. Ou je sais plus quoi.
Oui, oui,
et
oui.
Il y avait un petit chapitre sur Jenny Marx aussi dans ce livre-là. Et je dois l'avoir lu à l'époque, c'est pas un livre tout à fait récent, mais je ne m'en souviens plus très bien. Alors pour moi, c'était presque la première fois que je faisais la rencontre de la femme du grand chef. Et lui non plus, je me suis rendu compte en lisant le livre que, au fond, je connaissais très peu d'éléments de sa biographie. Et j'avais quelques fragments comme ça dans la tête, mais
à cette époque, peut-être qu'on mélangeait moins la vie privée des gens avec leurs idées. Et aujourd'hui, la vie des vedettes,
oui,
est connue sous tous les chapitres.
C'est vrai, je n'avais étudié que les idées et jamais l'homme qui était derrière.
Est-ce que fut une bonne découverte?
Eh bien, tu vas voir, c'est assez intéressant parce que c'est pas tout à fait comme je me l'imaginais, ça d'abord. Et puis, oui, tu verras, c'est des personnages assez curieux. Mais j'ai retrouvé, par exemple, j'avais lu il y a pas très longtemps la biographie de Albert Einstein, et de la première femme d'Albert Einstein, de Mileva Einstein. Et j'ai retrouvé des parallèles avec Jenny Marx dans le sens d'être attachée profondément à un homme qui est un génie et de vivre avec lui un amour qui est toujours un peu tragique d'une certaine manière parce que c'est un homme de génie. Alors Jenny Marx et Mileva Einstein, elles partagent toutes les deux le fait d'être des femmes d'hommes de génie. Bon, alors oui, je disais, en exergue du livre, il y a une petite phrase qui dit déjà un petit peu comment Françoise Giroud va traiter les choses. C'est une petite phrase de Stendhal qui dit « La révolution viendra, mais il n'y a pas lieu de se refuser les joies de l'existence. » Tu vois, elle est coquine hein, dès le début.
Oui.
Et bon, alors, qui était cette Jenny Marx et ce Karl Marx en tant qu'être de chair et d'os? Alors, tous les deux, ils viennent d'une petite ville rhénane de 12 000 habitants qui s'appelle Trèves et plutôt catholique, mais eux-mêmes sont de famille protestante. Enfin, avec les détails que je vais donner. Jenny Marx est une aristocrate. En fait, c'est Jenny von Westphalen,
wow.
Une petite baronne, la fille d'un aristocrate rhénan libéral, disons, très acquis aux idées de Voltaire et de la fin du XVIIIe siècle. est protestant, alors que l'ensemble de la ville est plutôt catholique. Du côté de Marx, le père est un avocat juif, mais qui s'est converti au protestantisme pour pouvoir exercer plus librement son activité d'avocat. Il s'est converti, il a obligé sa famille de le faire aussi. Tous les enfants étaient baptisés protestants. Et c'est une première chose qu'on peut dire, Karl Marx va toujours avoir des rapports très difficiles avec la judéité ou le fait de ses origines juives. Il écrit des choses très antisémites, en fait. Il fait toujours des portraits de juifs très, très désagréables. Ça, c'est quelque chose que ses biographes et enfin, tous les gens qui se sont intéressés à son œuvre ont toujours un peu de la peine à expliquer et à justifier. Et François Giroud dit qu'il se tortille, hein, tous ces exégèses de l'œuvre de Marx quand on essaye d'aborder ce point-là. Ce n'est pas important tellement pour notre propos ici, mais je le dis juste en passant. Donc, il y avait des origines juives dans la famille, mais lui, il est déjà baptisé protestant. Et la famille de Jenny verra aucun inconvénient d'ailleurs. Elle n'est pas du tout antisémite, donc verra aucun inconvénient à ce qu'il se marie plus tard, comme on le verra, venant de cette famille-là. Alors, c'est curieux parce que sont deux familles, disons, bourgeoises, dans leur mode de vie, bien que, c'est une petite aristocratie locale. Ils habitent tout près l'un de l'autre, ces deux maisons. Les enfants ont à peu près le même âge. Ils se connaissent très jeunes. Ils sont amis les uns les autres. Les pères s'apprécient et se rencontrent assez souvent dans le travail. Et voilà, donc c'est pas. Ça va pas. Ils vont pas avoir un coup de foudre de gens qui se connaissaient pas avant. Ils se connaissent bien. Mais ils vont. À certains moments de leur vie, oui, tomber amoureux l'un de l'autre et avoir d'ailleurs de très longues fiançailles.
Ni de drame familial où la jeune femme devra renier sa famille aristocrate pour partir avec son beau monsieur Marx.
Non, pas du tout. Pas du tout. Les mères, on n'en parle pas beaucoup. Elles ont l'air assez traditionnalistes. Mais pas avoir beaucoup la voix au chapitre, c'est les pères hein, qui donnent l'autorisation à l'époque aux enfants de se marier. Donc c'est ça qu'on sait encore, ce qu'on dit les pères. Les pères étaient apparemment d'accord, mais d'un côté ils voulaient que la jeune fille ait un certain âge, et puis de l'autre ils voulaient que le garçon ait une situation. Ce qui, comme on va voir, va être toujours très très difficile, hein, parce que Marx n'aura jamais vraiment une situation de toute sa vie.
Non, on sait bien qu'il a vécu de l'argent de beaucoup de gens, mais pas forcément de celui qu'il avait gagné.
Oui, très très peu de celui qu'il avait gagné. Donc voilà, ça c'est un peu les origines familiales. Et bon, Jenny est plus âgée que Karl Marx, elle a 4 ans de plus que lui. Et en fait, quand il est encore qu'un adolescent, elle est déjà, c'est une très jolie femme, très jolie jeune fille d'abord. Elle est la reine des bals de la petite ville de Trèves à 18 ans. Alors lui, il n'en a que 14, il n'est pas encore en jeu vraiment. Hein? Et elle fait déjà tous les bals, elle a même des très courtes fiançailles avec un officier, quelque chose qui ne durera pas. Et puis c'est à l'âge, en fait, quand elle aura, 22 ans et Karl Marx, 18 ans, qui vont avoir, disons, ce coup de foudre et qui vont décider, enfin, qui s'aiment. Mais ils ne pourront pas se marier tout de suite, ils auront donc des très longues fiançailles. Je disais, oui, tout à l'heure, il y a un gibier fuyant qui vont traquer toute leur vie, c'est l'argent, ces deux-là. Ils n'auront jamais d'argent avant peut-être les 10 dernières années de leur vie, grâce à l'héritage qu'a fait Engels des biens de son père et qui, à ce moment-là, leur a alloué une pension régulièrement, ce qui bien qu'ils ont eu des rentes régulières. Et non. Mais jusque-là, ils ont traqué cet argent, des héritages dans la famille. Ils attendaient, Marc Salle a attendu longtemps l'héritage de sa mère. D'abord, il a eu un petit peu suite son père. Après, il a attendu longtemps suite sa mère. Jenny, pareil, elle a eu un petit peu de son père. Et après, elle a eu un petit peu de sa mère. Il y a eu des grands-oncles, des cousins, etc. Ils ont eu comme ça. Et puis, ils ont eu beaucoup les amis, ils les ont aidés. Ils faisaient des collectes carrément. Parce que il était entendu que Marx devait recevoir ce dont il avait besoin. Il écrivait, il faisait de grandes choses. Il ne pouvait pas en même temps gagner...
travailler à l'usine, comme les ouvriers dont il parlait.
Gagner la vie de sa famille. Et il en avait de la famille, parce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Elle a mis au monde 6 enfants. Et il y en a 3 qui sont morts en plus ou moins bas âge. Il est resté 3 filles. De leur mariage. Ils ont été mariés 38 ans, donc du début, disons, jusqu'à la fin. Hein, ils ne se sont jamais séparés. Et on peut dire qu'ils se sont aimés du début à la fin. Comme je le montrerai dans un petit portrait que j'ai de la famille. Si Marx était un homme très redouté par ses ennemis et même ses amis pour sa langue très fourchue quelquefois et puis ses commentaires très durs. Il semble qu'en famille, il était un homme tout à fait tendre et tout à fait charmant avec sa femme et ses enfants. Il adorait d'ailleurs ses filles qui le lui rendaient bien. Et sa femme, cette Jenny, a été absolument fidèle et tout à fait... proche de ses convictions intellectuelles aussi. Elle a été la compagne qui l'a accompagnée absolument dans tout et qui s'est adaptée à toutes les situations et tous les multiples déménagements qu'ils ont fait d'un pays à l'autre, à Londres, dans différentes pièces, hôtels, petites maisons, cottages qu'ils ont eus parce que souvent ils devaient partir parce que les créanciers les poursuivaient. Alors avant que la police les arrête, ils devaient s'enfuir quelque part ailleurs. Et elle était toujours là à faire des bagages, les défaire, vendre l'argenterie de famille, etc.
Mais c'est étonnant parce que quelque part c'est une histoire tout ce qu'il y a de plus traditionnel et normal, en tout cas pour l'époque j'imagine. Elle a joué le rôle d'une femme tout à fait habituelle. Est-ce que Françoise Giroud s'est vraiment attaquée au portrait de cette femme si habituelle que ça?
Oui, mais lui aussi, il est dans son comportement d'homme de famille. Il est tout à fait... il se comporte d'abord, elle le décrit comme ça, en tout cas elle, assez snob. Il est au fond très content d'avoir épousé une aristocrate, lui qui n'était que le fils d'un bourgeois. Hein. Il est très content et il ne se prive pas de rappeler, quand il le peut, les origines aristocratiques de sa femme. Hein. Il en est tout à fait content. Et ça n'empêche pas qu'il travaille pour la cause prolétarienne, mais... C'est un pur intellectuel, c'est pas un ouvrier, il n'a jamais songé à... Même s'il a vécu dans presque la misère à certains moments, il n'a jamais été un ouvrier.
Здравствуйте, товарищ Михаил Горбачев. Здравствуйте, прекрасная Раиса. У меня Нина Хаген. Михаил. Михаил. Dieses Liedchen ist für dich. Lass dir bloß nicht über'n Tisch ziehen und zieh uns nicht über'n Tisch. Michaël. Bleibe klug und bleibe schlau, bleibe Kind und sei ein Mann und sei tapfer wie eine Frau. Sonst darf Kanonen statt Butter, jetzt gibt es Freiheit statt Butter. Mein lieber Gorbi, das macht mir Sorge, nix ist mit Freiheit ohne Butter. Ich will im Kienparadies drin, die Welt soll bloß nicht so mies sein. Ich will bloß Freiheit, Brot und Tomaten, Prosen für Liebe und einen Sojabraten. Oi, oi, Mama, Hoffnung, die ich heg, Mütterchen, mein Russland, mach dich auf den Weg. Oi, oi, Mama, blas mal in den Glut, Feuerchen, du wärmst mich und das macht
nach mir Mut, Michael, Michael.
Michael,
Michael.
Michael.